Covid-19 les a certainement refroidis. Surtout, les investisseurs français attendent les annonces d'Emmanuel Macron ce soir sur de probables nouvelles mesures de restriction pour lutter contre la deuxième vague épidémique que connaît actuellement le pays. Les autres États européens ont également pris des mesures qui ne rassurent pas vraiment les marchés. Les Pays-Bas ont décrété un confinement partiel, l'Italie a quant à elle interdit les fêtes privées, tandis que les pubs ont été fermés à Liverpool. Du côté des valeurs, le tourisme en pâtit. Accor perd 1% sur la journée. C'était Rémi De Michelis, Investir pour RFI.
Merci Rémi De Michelis, ainsi s'achève le journal. Merci à vous de l'avoir écouté.
Radio G.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à l'écoute de votre quotidienne culturelle et aussi des actualités locales. C'est l'oreille curieuse. On est mercredi et désormais, c'est un jour où on découvre une nouvelle chronique, le prêt-à-penser. C'est une chronique autour des questions psy que vous découvrirez en deuxième partie d'émission aujourd'hui avec Nicolas. Nous entendrons aussi Titi Robin à l'occasion de son concert le 10 novembre au THV, où il renoue avec les influences gitanes de sa musique. Ce sera dès le début de l'émission. Une émission qui a été préparée à toute vitesse, mais avec passion, par moi-même, Anne-Lie. Et le proverbe que je vous propose de méditer ce soir est « À chaque jour suffit sa peine ». Un classique, mais qui fait toujours ses preuves, je crois. Bien sûr, on débute cette émission en musique avec un titre de The Pirouettes. Et c'est ça ira, ça ira.
Ça ira, ça ira. Essaie de rester tranquille. Ça ira, tu verras. Dans les moments difficiles, oui, le monde change, ça te dérange. Mais regarde autour de toi, c'est les mélanges un peu étranges qui font le beau, tu le trouves pas? Y'avait avant et y'a le présent, c'est différent. Mais aime le beau temps. Aime quand la magie t'éblouit au cinéma. Être surpris d'une alchimie, car t'avais jamais vu ça. Quand cette fille un peu jolie vient pour te prendre dans ses bras et te dit si tu me suis moi aussi et pour longtemps je crois. Oh ça ira, ça ira. Essaie de rester tranquille. Ça ira, ça ira. Dans les moments difficiles. Ça ira, ça ira. Ça ira, ça ira. Aime quand le tonnerre retentit pendant ton. Dans tes poings, sois malin, essaie de faire des haltères ou de fumer des joints. Ça ira, ça ira. Essaie de rester tranquille. Ça ira, tu verras. Dans les moments difficiles. Ça ira, ça ira. Et même si rien n'est pareil, l'amour est intemporel. Ça ira, ça ira. Un peu
On va maintenant retrouver Titi Robin. Je l'avais reçue en mars 2019 dans une émission réalisée avec le Shabada. Et vous allez entendre la voix de Jérôme alias Kalcha du Shabada qui avait préparé l'entretien. C'est peut-être même plutôt lui qui l'avait reçu. Il a vraiment fait le travail. Notez la date si vous voulez voir Titi Robin sur scène. Alors c'est Titi Robin et Magavali et c'est le 10 novembre au THV à 20h30. Si ça vous intéresse, je vous recommande de prendre très rapidement vos places. On retrouve Titi Robin. Titi Robin, donc c'est 20 albums, 30 ans de musique. Donc moi je trouve ça très difficile de résumer en quelques mots. Beaucoup de voyages, de rencontres, de la musique qui prend des sources dans les musiques gitanes, européennes, d'Asie centrale également. Des musiques très variées.
Eh bien, t'avais raison. En fait, c'est difficile d'aborder Titi Robin en peu de temps, puisque c'est une carrière très longue. Donc, on a décidé d'essayer de passer par des morceaux un peu emblématiques. Ce ne sont pas des morceaux forcément de Titi, mais on va essayer de le faire parler autour de ces morceaux. Donc, on va commencer par un premier morceau qui s'appelle Cachemire, dont l'original était signé Led Zeppelin à la fin des années 60. Et là, c'est une version par Jimmy Page et Robert Plant, donc le guitariste et chanteur de Led Zeppelin, enregistré dans les années 90 avec un grand orchestre égyptien. Enfin, il y a plein de musiciens traditionnels qui revient un peu à la source de l'influence du morceau Cachemire. Donc on va écouter ça et on en parle un peu plus tard. Cachemire, Robert Plant et Jimmy Page. Donc pas la version Led Zeppelin, mais une version enregistrée en 94 en live, je crois, à Marrakech avec des musiciens égyptiens. Ce morceau, Cachemire de Led Zeppelin, ça a été pour beaucoup de gens une des premières rencontres avec les musiques du monde via un groupe occidental. On se demandait comment toi tu avais découvert les musiques dites du monde. Est-ce que tu es passé aussi par des groupes occidentaux qui s'en sont inspirés, ou est-ce que tu étais directement à la source des musiques traditionnelles avec des musiciens qui jouaient directement ces musiques traditionnelles?
Oui, en tout cas j'ai pas découvert ces musiques à travers ce genre d'expérience, ça c'est sûr. Par contre, au niveau du vocabulaire, moi je considère que la musique traditionnelle ou ethnique, je sais pas, ça concerne tout le monde. Donc Led Zeppelin, comme Jimi Hendrix, comme John Coltrane, comme un musicien indien, c'est-à-dire il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas une ethnie, nous non plus, ou des ethnies. Donc je parle pas, je pense, moi j'adorais Led Zeppelin à l'époque, mais peut-être plus sur leur répertoire plus anglo-saxon. Ouais. Et par contre, j'écoutais. En fait, moi, j'ai grandi ici, dans le Maine-et-Loire, mais au milieu de communautés à la fois françaises, gitanes, arabes. Et donc, les musiques qu'on appelle musique du monde, les entendais sans le filtre de ce genre d'expérience. Et mon vocabulaire, je l'ai créé en mariant ces influences. Moi, la culture méditerranéenne, globalement, quoi, du sud de l'Europe, c'est quand même les rives nord, elles sont liées aux rives sud, donc au nord de l'Afrique, et puis après, c'est vrai, ça va sur l'Asie centrale. Cette mer-là, c'est vraiment une sorte de creuset qui fait se croiser beaucoup de cultures. J'ai grandi avec, mais j'ai grandi avec des gens qui avaient cette culture-là. Donc, je revendiquais même à l'époque, et je le revendique toujours maintenant, quand on me demandait mais pourquoi tu joues ce genre de musique, je disais je pense que je suis plus, moi, légitime à jouer la musique que je joue que les gars de mon âge qui jouaient du rock ou du jazz, parce que moi, j'ai grandi avec des Marocains, avec des Gitans, et j'étais appelé pour jouer dans des baptêmes ou des noces ou des de ces communautés-là, donc je sais très bien ce que c'est. Tandis que la plupart n'avaient jamais rencontré un Américain ou un Jamaïcain s'ils faisaient du reggae. Eux, ils étaient plus exotiques pour eux que pour moi.
Ouais.
Mais c'est à moi qu'on me pose la question. Parce que l'histoire officielle, même l'histoire de la contre-culture, elle est quand même normée par les médias, etc. Et c'est d'ailleurs un des problèmes pour moi, les problèmes d'identité de la France, parce qu'il y a toute une réalité... très ancienne. On sait très bien que De Gaulle et puis les Américains n'ont pas voulu que les Noirs défilent à la libération de Paris, alors qu'ils avaient été nombreux à mourir sur les champs de bataille, mais ça faisait des ordres, donc ils ne sont pas là. Donc dans les archives, on ne les voit jamais. Donc sinon, ça aurait légitimé un peu plus peut-être le fait qu'il y ait d'autres couleurs de peau qui vivent en France, en voyant tous ces gens-là qui avaient donné leur vie pour la libération. Oui, c'est le storytelling, comme on dit. C'est politique. Donc, moi, je ne me retrouve pas souvent dans le discours parce que comment j'aurais à justifier cette musique? Elle n'est pas exotique pour moi, j'ai grandi avec. Et je dis, bien sûr, je force le trait, mais je trouve que c'est peut-être plus exotique pour quelqu'un de jouer du reggae. Il n'a jamais été en Jamaïque, ou un mec qui est fou de rock US, il n'a jamais été aux États-Unis.
Ou
il n'en a même jamais rencontré un Texan ou un bluesman. Tandis que moi, au quartier à la Roseraie, par exemple, pour juste donner un exemple, on jouait de la musique et on regardait des VHS de musique arabe avec les copains arabes ou berbères. Et puis la culture gitane, ça fait partie aussi de mon histoire de français, quoi. Voilà. J'arrête parce que je suis bavard.
et du coup, j'imagine qu'au départ, ça a dû être quand tu as commencé à jouer de la musique. Pour te produire, ça devait être justement un peu compliqué parce que rien n'est pensé pour les musiques qui ne rentrent pas dans les cadres de l'anglo-saxon, quoi.
Exactement, ouais, tout à fait. Après, ce qui a tordu le truc, mais qui était très positif pour moi en termes de carrière, c'est World Music, les musiques du monde, Peter Gabriel et tout ça. D'un seul coup, le fait d'avoir une culture qui soit métissée comme la mienne, c'était un inconvénient, ça devient un avantage parce que c'est ma vie, j'ai une expérience et j'ai une légitimité, et donc ça, d'un seul coup, ça intéresse des gens alors qu'au contraire avant ils comprenaient pas. Et ça, c'est effectivement, ce mouvement-là m'a aidé, mais en même temps c'est pervers parce qu'on me met dans une case que je trouve ridicule, qui est la musique du monde. Ça peut être de la musique sacrée d'Iran, du flamenco ou du rock taïwanais, et c'est musique du monde, ça n'a rien à voir.
Ouais,
on met ça dans c'est très ethnocentrique, quoi. On met ça dans une espèce de sac et on dit voilà, c'est tout ça. Avant on disait exotique, là on dit ethnique. Et c'est vrai que je m'y retrouve pas.
Moi je raconte souvent l'anecdote dans les années 90, je me souviens être allé à Londres, me balader dans un magasin de disques au rayon musique du monde. J'ai trouvé des disques d'NTM.
Bah oui.
Parce que c'était le rayon français, donc ils ne sont pas emmerdés. NTM, c'est français, musique du monde. J'ai une petite pensée pour Joey Star. On va écouter un deuxième morceau. Un groupe local, lui aussi, Lojo, et on en parle après.
Thank you.
Jérôme, pourquoi tu as choisi ce morceau de Lojo pour...
Alors c'est un des premiers disques de Lojo, qui doit dater vraiment du tout début des années 90. Je trouvais ça juste un peu étonnant qu'à Angers, on ait deux artistes, les Lojo et toi, Titi, qui aient réussi à faire carrière justement sur des musiques non occidentales. Vous avez probablement voyagé un peu sur tous les continents, vous revenez toujours au Bercail, mais... De l'extérieur, on n'a pas l'impression que vous revendiquiez ce territoire de la même manière. Quel rapport tu as eu à ce territoire et le rapport que tu as eu avec Lojo? J'imagine que vous vous connaissez forcément depuis très longtemps, vous avez dû travailler avec des tas de musiciens en commun.
Oui, c'est très souvent, je me souviens d'une époque où je voyageais et on me disait Angers, ah mais tu connais Lojo, ils sont d'Angers aussi, voilà. Et en fait, on se croisait mais on ne se connaissait pas vraiment. C'est que depuis peu de temps qu'avec Denis, on a commencé à s'apprivoiser. C'est très récent et c'est intéressant parce qu'on apprend maintenant à se connaître. Mais sinon, on a eu des démarches très différentes. C'est intéressant ce que tu disais par rapport au fait que le groupe, il est ancré. C'est vrai, il a commencé sa carrière ici. Alors que moi, pour être reconnu ici, il a fallu que je le sois reconnu d'abord à Paris. J'ai joué au Théâtre de la Ville à Paris avant de jouer au Théâtre à Angers. Mmh. Et c'était lié aussi, je pense que Lojo au début avait... il s'inspirait d'autres musiques, mais il y avait un fond quand même rock et jazz et musique improvisée qui rassemblait. Et puis c'est un groupe déjà, alors que moi non, j'ai une démarche qui est quand même solitaire, même si je la partage sans arrêt, c'est quand même au départ un travail vraiment solitaire, donc ça c'est une différence aussi importante. Et puis en tant que groupe local, ils ont travaillé avec ces structures locales tout le temps. Tandis que moi, bon, déjà, par le fait des musiciens avec qui je jouais, soit le milieu gitan ou le milieu arabe, on n'avait pas de lien avec les structures directement comme ça. On était vraiment quand même souterrain. Mm. Je suis vraiment issu d'une culture souterraine par rapport à ça. Après, quand il y a eu le mouvement des musiques du monde, bah, c'est à Paris, Londres, qui ont commencé à me reconnaître. Avant que ce soit Angers.
Ouais.
Et les musiciens avec qui je jouais, bon, au début, avant que je sois professionnel, c'était que des musiciens du coin, mais on n'était pas... Angers était ville rock à l'époque et il y avait peu d'échanges, comme maintenant, on échange beaucoup plus, ouais. Mais à l'époque, non. Donc, on était à part. Et puis, voilà, après, c'est à l'extérieur qu'il y a eu cette reconnaissance. Et ensuite, j'ai joué essentiellement avec des musiciens qui venaient d'ailleurs, soit de Marseille, de Jaipur, ou de Paris, ou de Perpignan. Mais j'ai jamais eu une base d'un groupe qui était local aussi. Donc, ça fait une grosse différence.
Parce que par exemple, Lojo, je crois qu'il y a une centaine de musiciens qui sont passés par le groupe depuis l'existence.
Oui.
Et donc, ça aurait été presque normal de te trouver à un moment donné, en oui. fait, là-dedans. C'est moi qui ai eu un passage et tout. Vous n'avez jamais travaillé ensemble sur disque, en tout cas.
Non, c'est vrai. En fait, depuis quelques années, on commence à se retrouver pour des choses plus sociales. La première fois, je pense, c'était quand j'avais invité Alain Bachung aussi,
ouais, pour Musique pour la
Shabada, là. Donc, c'était, en fait, c'était pas Musique pour la Palestine, non, là, c'était contre les bombardements sur le Liban. Et donc, c'est la première fois, je suis allé à la Fontaine du Monde, on a répété un morceau avec Denis, c'était la première fois. Et puis, depuis, moi, je suis le parrain d'une association des gens du voyage en Loire-Atlantique, et on s'est retrouvés autour de ça avec Denis aussi, plusieurs fois. Là, on vient de faire un documentaire audio, où moi, j'ai fait la musique, où lui, il lit le texte en voix off. Donc, de plus en plus, il y a des occasions de se retrouver, de discuter, et ça fait très plaisir, je crois, à tous les deux. Si on veut parler d'échanges, peut-être avec Lojo ou Denis Péan, en tout cas, ils sont peut-être plus devant nous.
Ouais,
peut-être plus à venir que sur le passé.
Et tout à l'heure, on a dit un peu comment tu as démarré, mais effectivement, on n'a pas expliqué comment tu en es venu à la guitare. Est-ce que...
Ben, la guitare, en fait, j'ai joué la guitare parce que, comme tous les adolescents, ils voulaient jouer de la guitare. Moi, j'ai commencé, il y avait la MJC Frémur à la Roseraie. Et voilà, là-bas, il y a des gens qui donnaient des cours de guitare. Mais au bout d'un an, je donnais des cours moi aussi, parce que c'était l'ambiance MJC. Dès qu'on savait un petit peu gratter, hop,
on
partageait, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais après, très vite, bah, la Roseraie, pour moi, c'est important, parce que beaucoup des copains avec qui j'ai grandi, marocains particulièrement, ils étaient là-bas aussi. Et le groupe Johnny Michto, il était basé à la Roseraie. Donc le quartier sud, après mon plaisir aussi, ça a joué, mais Trélazé aussi. Mais ça a été quand même un quartier important, Jean Villard, pour mon histoire musicale, avant que je devienne professionnel. L'association des Marocains en France, ils faisaient des fêtes, et je jouais quasiment à chaque... il y avait un seul nom français dans la liste des artistes qui étaient là, c'était moi.
On va écouter, pour se quitter, un morceau tiré de l'album Rebelle Diwana. Le morceau, c'est Bera Batakna. Je ne sais pas si je suis même sûr que je ne le prononce pas bien. Titi, tu veux le prononcer
Bera Batakna.
Voilà, toi aussi, c'est beaucoup mieux.
Vous êtes sur les ondes de Radio G à Angers, à l'écoute de l'Oreille Curieuse, et vous entendiez Titi Robin. Si vous voulez le voir ou le revoir sur scène, ce sera au THV le 10 novembre à 20h30. Et maintenant, c'est la grande première d'une nouvelle chronique. Alors dites bonjour, oui, à la chronique, le prêtre t'a pensé.
Quel sentiment tu ressens? Et j'aimerais faire une introspection. Trouve-moi un dictionnaire, regarde la introspection. S'il nous envoie ça à travers la gueule, je veux savoir ce que c'est.
Bonjour Julien.
Alors moi, c'est Nicolas.
J'ai eu un bug, bref, je vous raconte pas, mais c'est bien Nicolas. Bonjour
oui,
Nicolas.
C'est bien Nicolas. Bonjour Anne-Lie.
Bonjour.
Tu vois, j'aurais pu changer ton prénom aussi, hein, par vengeance.
N'hésite plus.
Par basse vengeance.
S'il te plaît.
Merci à l'Oreille Curieuse de m'accueillir effectivement cette première chronique, grande première pour moi. Une chronique psy, hein, tu l'as dit en introduction, puisque bah, moi-même, je suis psychologue clinicien. Hein, personne n'est parfait, comme on dit.
Drôle d'espèce.
Voilà, une très drôle d'espèce. Cette petite chronique, le prêt à penser, eh bien, ça se propose d'aborder des problématiques de la vie quotidienne de façon plutôt simple, légère, sans trop de prise de tête, même si chronique psy oblige, on va quand même essayer de couper les cheveux en quatre. Mais je l'espère, en tout cas de la façon la plus intéressante possible et sans trop jargonner. Voilà. Et comme première thématique pour cette chronique, ce soir, j'ai choisi de partir d'une situation, un peu cocasse, de cabinet de consultation. Une situation à peu près, a priori, anodine, mais qui ne l'est peut-être pas tant que ça. Comme vous le savez, nous autres, les psys, on aime bien se poser des questions. Et on a l'habitude de poser des questions aux patients qui viennent nous voir, à commencer par le traditionnel « Comment allez-vous ?» de début de séance. Ce « Comment allez-vous ?» eh bien, c'est une façon de donner la parole au patient et de l'inviter à dire comment il se sent, où en sont ses problèmes, etc. Bref, à se placer dans une posture introspective. Introspective, ça vient de introspection, donc regarder à l'intérieur, se regarder soi-même. Voilà. Et alors, eh bien, il peut arriver que de façon un peu surprenante, eh bien, le patient il nous réponde « Ça va et vous ?»
Bah, surprenante ou polie.
Ou poli, ben, on va y venir. Mais en tout cas, surprenante parce que, en général, c'est suivi d'un petit embarras quand même, hein, de la part du patient. Un petit embarras parce qu'il se rend compte assez rapidement, vu la réaction en fait, du psy qu'il a en face de lui, que ce n'est pas forcément la réponse qu'il attendait. Et en plus de ça, autant vous le dire tout de suite, il y a très, très, très peu de chances que votre psy commence à vous emboîter le pas et à se confesser sur ses états d'âme du moment. Donc, on va voir ensemble, effectivement, qu'est-ce qui se cache derrière cette façon de répondre « Ça va et vous ?» à son psy. Et pourquoi ? Est-ce que c'est gênant déjà, hein, parce que c'est pas une évidence. Et pourquoi ça peut survenir dans un contexte qui, quand même, admettons-le, ne s'y prête pas vraiment ? Donc, la première raison, Anne-Lie, tu l'as évoquée, hein, c'est la plus simple. C'est que dans la vie de tous les jours, demander à quelqu'un si ça va, eh bien, c'est un code social de politesse communément admis et pratiqué par tous. Et il est tout à fait de rigueur, quand on nous pose la question, de renvoyer la question à son interlocuteur. Ça prouve une espèce de réciprocité dans la considération. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Plusieurs fois par jour, ça va, oui, ça va, et toi, voilà. Un peu comme un réflexe de politesse, donc il est tout à fait probable que ce réflexe, il soit aussi convoqué à la question du psy à son patient. Donc, pour moi, c'est très important, parce que c'est important de commencer par prendre ce « ça va bien et vous » pour ce que c'est-à-dire une parole a priori bienveillante, une parole polie du patient à l'égard du psy. Et je pense même qu'il est très important, moi-même en tant que psy, de l'apprécier et puis d'en accuser réception. En plus, cela, ce qui cache rien, c'est que ça peut être perçu comme un indicateur positif de la relation patient-psy. Ça fait pas de mal. Mais il y a quand même un gros mais, hein. C'est que au-delà de cet aspect vraiment très 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 sympathique, moi, à titre personnel, dans mon parcours professionnel, ça m'a renvoyé à une autre situation beaucoup moins sympa, où cette façon de me renvoyer le « ça va très bien et vous » était très 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 récurrente. Et ce contexte, c'est le contexte de l'injonction de soins. Alors Anne-Lie, est-ce que tu sais ce que c'est que l'injonction de soins ?
Alors, je commence à avoir des idées, mais en fait, j'en sais rien.
Eh bien, en fait, l'injonction de soins, tu vas voir, c'est très simple. C'est des situations dans lesquelles le patient, il n'a pas pleinement choisi, en fait, de venir voir le psy. Il est fortement incité, on ne va pas dire forcé, mais fortement, très fortement incité, par exemple, par une décision de justice, dans le cadre d'un allègement de peine, par exemple, ou d'un aménagement de peine. Donc, inutile de préciser que dans un tel contexte, on a souvent des patients qui viennent, au moins dans un premier temps, parce qu'ils doivent venir, mais qui n'ont pas forcément envie d'être là, et encore moins de parler d'eux. D'accord. Mmh. Et donc, très souvent, moi, je leur posais la question, bah, comment allez-vous? Et ils me disaient, bien et vous? Voilà, avec un ton. Alors, je suis pas hyper bon acteur,
mais non, qu'il y a mais une petite tension là, dans
une
ce...
petite tension, une petite défiance en fait, et ça se détachait un peu quand même hein, du contexte très sympa du cabinet où le patient essaye d'être poli, etc. Donc c'est vrai qu'on peut traduire ce bien et vous que me renvoyaient ces patients en injonction de soins en deux parties. Moi, je l'interprète en deux parties. Déjà, le bien, c'est une façon de dire il y a rien à voir, circuler. Et puis le et vous, ben, très grossièrement, c'est occupe-toi de tes oignons, quoi.
Ouais. Voilà.
Donc vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient apporter à notre question de départ? Eh bien, déjà, ça montre qu'une même réponse, avec des mêmes mots, ça peut avoir des visées apparemment complètement différentes. C'est-à-dire que ce qui était dans le premier cas de figure une ouverture relationnelle, ça peut aussi être utilisé comme une façon de fermer totalement la relation. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut se poser la question de savoir si finalement, au fond, l'une et l'autre de ces positions de patient sont si différentes que ça. Je m'explique. En fait, si on s'intéresse au résultat en fait de la prononciation de ce renvoi de question, eh bien, on s'aperçoit que c'est le même. En fait, le résultat, c'est que ça vient court-circuiter la démarche d'introspection induite par le thérapeute. Voilà. Autrement dit, on peut émettre l'hypothèse que peut-être même dans le cas de la politesse, eh bien, le fait d'interpréter la question, l'invitation à l'introspection du thérapeute comme une simple question de politesse, eh bien, ça peut être une façon d'éviter justement de se livrer, de remuer des choses plus ou moins compliquées, etc. Donc on serait peut-être face à un évitement au moins inconscient. Et là, on vient toucher du doigt un concept théorique, parce qu'il va y en avoir un peu quand même dans cette chronique.
Ouais,
un concept théorique de base, mis en lumière par l'illustre pionnier Sigmund Freud.
Le cocaïnomane.
Le cocaïnomane, entre autres.
Mes pionniers
de la psychanalyse, quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la résistance en psychanalyse? Eh bien, c'est très simple. C'est un principe général selon lequel le patient, en psychothérapie ou en analyse, alors même qu'il vient de son plein gré, alors même qu'il a une demande, un problème à résoudre, alors même qu'il paye aussi pour ses séances, eh bien ce même patient, il va avoir tendance, inconsciemment, c'est important de le préciser, à freiner les progrès de la thérapie. Voilà. D'où le terme de résistance. En fait, c'est un semi-sabotage, en quelque sorte. Voilà. Mmh. Et cette résistance, elle s'explique de façon très simple. L'être humain, il préfère toujours l'équilibre, même précaire, même douloureux, au déséquilibre. Et une thérapie, ça vise par définition toujours un progrès. C'est une mise en mouvement. Voilà. Et donc, comme la mise en mouvement de la marche, par exemple, si on s'intéresse à analyser un peu les différentes étapes quand on marche, quand on fait des pas, eh bien, on quitte un équilibre, on accepte de mettre son corps en déséquilibre vers l'avant, quand on marche en avant,
oui.
Et puis on accède à un deuxième équilibre un peu plus rapproché que son objectif, et par répétition, voilà, ça s'appelle marcher. Donc on voit bien que d'un équilibre à l'autre, il faut accepter un déséquilibre. Et finalement, une psychothérapie, c'est toujours ça. C'est accepter de remuer des choses pouvant provoquer un changement, donc quitter un équilibre précaire dans l'espoir d'un équilibre plus stable. Et il faut bien comprendre que le patient, quand il est installé sur le canapé ou allongé sur un divan, au moment de répondre à la question « comment allez-vous » posée par le thérapeute, eh bien, il est face à cette décision d'y aller ou pas, de risquer le déséquilibre ou pas. Et à ce moment-là, il peut intervenir un phénomène de résistance par une réponse à côté de la plaque. « Ça va bien et vous ?» Donc, en conclusion, je dirais que répondre « ça va et vous » à son psy, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout d'abord très appréciable et positif sur le plan humain. Et il ne faut pas oublier qu'une psychothérapie, c'est d'abord une relation humaine entre un patient et son thérapeute. Donc, quelque part, c'est très bien. Et je pense que, chers auditeurs qui nous écoutaient, suivaient une thérapie, vous pouvez compter, me semble-t-il, sur le recul et l'expérience de votre thérapeute pour apprécier votre démarche comme telle. Donc, petit conseil, ne soyez pas trop gêné. Il n'y a pas de gêne excessive à avoir non plus. Il n'y a pas péril dans la demeure. Mais par contre, attention quand même à ne pas sous-estimer la dimension de résistance que peut-être cette réponse vient trahir. Auquel cas, il conviendra au patient comme au thérapeute d'en tenir compte pour le bon déroulé de la thérapie, puisque cette résistance, au fond, elle vient toujours dire quelque chose de la position dans laquelle se trouve le patient, de ses craintes et de ses angoisses, que bien souvent, il ignore lui-même.
Mais alors ça veut dire qu'on peut pas vraiment lui demander comment ça va, s'inquiéter de cette personne en tant qu'humain?
Ah ben si, tout à fait. Mais il faut bien entendre, me semble-t-il, de quoi il est question quand même dans cette thérapie.
Ouais.
Et on y reviendra dans une chronique en préparation justement sur l'intérêt quand même pour le psy de rester un minimum mystérieux. Mais ce n'est qu'un teasing, nous y reviendrons.
Ça va mieux? Eh, beaucoup mieux. Super.
Merci beaucoup Nicolas.
Ah, merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Avec plaisir, et on se retrouve dans 2 semaines.
Avec grand plaisir.
Pour une autre chronique dont je ne connais pas encore la thématique. Ce sera la surprise. Voilà, c'est la fin de l'émission. C'est très étrange, c'est rare de finir à l'heure. Bientôt, vous entendrez le générique si tout va bien. Voilà. À 19h, vous allez retrouver Bande Geek Mafia, le mag Info Culture. Si vous avez envie de réécouter un fragment ou toute l'émission de ce soir, elle est en ligne sur le site de Radio G, à la page de l'Oreille Curieuse. On se retrouve en direct demain à 18h10 et je serai avec la compagnie Kalao qui fait des concerts dessinés. Je pense que c'est des choses très belles, en tout cas on en parlera demain. Je crois que je vous ai tout dit. Ah si, si vous avez envie de poser des questions sur cette chronique psy, vous pouvez envoyer des mails si vous vous demandez c'est quoi une psychothérapie ou n'importe quelle question.
Ouais. Ce serait super que cette chronique devienne interactive.
Voilà, on est comme ça à l'oreille curieuse. Et le mail c'est prog.radio-g@gmail.com ou bien sur notre page Facebook, etc. etc. Bon, et bien à très bientôt dans nos mails. Bonne soirée et à demain.
Yo, yo. Je t'accorde du temps, j'espère que tu le sais, j'ai la force des titans, venu pour vous terrasser, ah ouais. Je vois que t'étais pas prêt, j'ai pas le temps, la paresse c'est mal, j'ai pris Paris, je m'entends, c'est lourd. Devant de la scène, je suis l'au-delà, tu le sais. Donc voudras-tu me suivre au-delà de la nacelle? Ok, ça y est, j'aperçois lumière, j'apprivoise mes peurs, certes, je suis passé par la douleur, mais je passe aussi vite que day, night. J'écris des sons sur le dance. Ouais, je suis high, high, high. J'incarne le mal, mal, mal. Ouais, je passe aussi vite que day and night. J'écris des sons sur le day. Ouais, je suis high, high, high. J'incarne le mal, mal, mal. Ouais, vas-y, pose-toi, compotasse. Oublie pétasse, ceux qui profitent, bronzage. J'ai pas le time, mon passe-temps, c'est draper. J'ai le corsage, je travaille comme un corsage. J'appelle ça du travail forcé. Je m'appelle pas Conrad, je n'ai pas le port d'armes. Seulement la puissance de Connor et l'équipe est déterminée comme un corps d'armée. J'agis comme condamné, condamné. T'en avance, prends de latence. Je te le dis direct, on va pas t'attendre. Non, non, non. Je passe aussi vite que day and night. J'écris des sons sur le dance note. Ouais, je suis high, high, high. J'incarne le mal, mal, mal. Ouais, je passe aussi vite que day and night. J'écris des sons sur le dance note. Ouais, je suis high, high, high. J'incarne le mal, mal, mal. Ouais, du haut de la falaise, je les regarde s'affoler. C'est flippant, je suis choqué. Ouais, du haut de la falaise.
Je les regarde s'affoler, c'est flippant, je suis choqué.
Ouais, on n'a qu'une vie, donc je profite. Plus ça passe vite, plus je performe. T'es qu'une putain d'actrice, et ça dans le fond et la forme. T'es qu'une putain d'actrice, la défonce te rend folle. Vas-y, remballe-moi ça, sans peine je le fais. Une centaine de fois préparé au combat. Ouais, faut que ton contrat j'esquive les coups bas. Le temps c'est de l'argent, ouais, le temps c'est la vie. Donc, voilà pourquoi je profite. Merde, le temps c'est de l'argent, ouais, le temps c'est la vie. Donc, putain, voilà pourquoi je profite. Merde, 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 je passe aussi vite que day and night. J'écris des sons sur le dance. Ouais, je suis aïe, aïe, aïe. Chacun me mal, mal, mal. Ouais, je passe aussi vite que day and night. J'écris des sons sur le dance.
Ouais, j'suis aïe aïe aïe, j'incarne le mal, mal, mal. Ouais, j'passe aussi vite que day and night. J'écris des sons sur le day note. Ouais, j'suis aïe aïe aïe, j'incarne le mal, mal, mal. Ouais, j'passe aussi vite que day and night. J'écris des sons sur le day note.
Ouais, j'suis aïe aïe aïe, j'incarne le mal, mal, mal. Ouais, ouais, j'suis aïe aïe, j'incarne le mal, mal, mal. Ouais, j'incarne le mal, mal, mal. Ouais, j'incarne le mal, mal, mal. Ouais, j'incarne le mal, mal, mal. Ouais. J'incarne le mal, 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 j'incarne le mal.
Yo man, like you see all the old creeps over there, man. You know they ain't cool, man. You know they ain't cool. they gon' want some spaghetti.
I just might slap your bitch and strip her clothes for fun and pull out guns like Axl Rose. Undermine me and see your future dissipated right in front of your eyes. Ain't no surprise, cause I leave you fucked up, laid out, dilated. Pupils, everybody you with, all pupils. Poodles, you pit bulls, quiet as cougars. Maneuvers, silent, violent shooters. Get involved in this tangle. Try me, man, and I'ma hit you so many times I'll be damned. If your homies don't feel it, your mama too. I know about your block and who to bring the drama to. I'm more than set, setting more, and I said it before with the choppers of war. Double eagle forward, best to start popping them things before you say another word trying to talk and explain.
Niggas wanna shout my name, best believe we got to bang. Squeeze off, pop them things, yes indeed we pop them things. I walk my talk, I'm a boss, I leave you out your frame. Haters wanna block my game, don't twist it, it's not no game.
Yeah, I'm still on top of the game, and I thrill still hotter than flame. When I spill, cause trauma to brains, and I build, drop bomb on your lanes. Killer Hill still honor the name. The drill still more the same, more portion to gain. I'm rock bottom, no problem to bang. Beyond lock, son got him in chains. He not gonna change, he on the block where they popping them things. Six figure wide ride, frauds be flyed and dime. She like the iron, she be right on my side. Reason why she be livin' in guys. Niggas plot your demise, shake your hand, look you right in the eye. Only fuck with heads I can trust. The usual suspects, the next up, that can corrupt. Get your neck cut, messing with us. Them weapons are bust, your best bet, just step to the cut.
Niggas wanna shout my name, best believe we got to bang. Squeeze off, pop them things, yes indeed we pop them things. I walk my talk, I'm a boss, I leave you out your frame. Haters wanna block my game, don't twist it, it's not
the
game.
Why would I change my persona, nigga? If it helped me to grow, help me to glow, help me to help you niggas know, help me to show you niggas I'm the same OG from when the boom came through life in the street. When the dog drop sounds you couldn't believe, I'm on the grounds, lead spray painting M.O.P.
What now?
We get on marsh pit in this bitch. Nigga, I don't gang bang, but I bang a gang of you motherfuckers. I'm trying to tell you why I'm legit. Nigga, I will bang bang till I break the spring in this motherfucker. I'm with it all day. I get love from Brownsville through Stapleton to Crenshaw the long way. So nigga, y'all play and you'll be tossed around, cause I'm focused now and I'm with the bosses now. Put your pokers down, and if a faggot bitch get one in his abdomen, you know I'm back around.
Niggas wanna shout my name, best believe we got to bang. Squeeze off, pop them things, yes indeed we pop them things. I walk my talk, I'm a boss, I leave you out your frame. Haters wanna block my game, don't twist it, it's not no game.
If they drop me, you understand? Do you see any niggas? Any of them crawling up on me? You understand? Fuck it, you're just straight. But I don't wanna get stabbed in my back. I don't wanna get stabbed in the side of my back. But dig this, I want them cut. I want them laying out.
Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick.
I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on the booty, kick your dog, fuck your bitch, fat boy dressed up like you sound on and took pictures with your kids.
We the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench, I'ma mention I'll be fresh, I'm a man. Get correct, I will walk into a court while it wrecks, screaming yes, I am guilty, motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke?
Nobody speak, nobody get choked.
Fuck shit, the Funyuns. Flame your crew quicker than Trump fucks his youngest. Now face the flame fuckers, your fame and faith going.
I walk Charlie Brown, Peppermint, Patty, Linus, and Lucy. Put punk in the doobie, roll woolies to smoke with Snoopy. I still remain that dick rabbit slacker to spill the wookie. Cause the total of the toolie will murder you friggin' moolies. Fuck
out of here. Yeah.
Top billing, come cops and billing it. Shots is block shipped out and bought, and y'all feeling it. LP killing it, killing my killing shit.
What more can I say? We top billing it. Valiant without villain it. Viciously found victory. Burnt towns and villages, burning, looting, and pillaging.
Murderers try to hurt us, we curse them and all their children. I just want the bread and bologna bundles to tuck away. I don't work for free, I am barely giving a fuck away.
So tell Big and Johnny and Mommy to get the fuck away. Hey, yo, here's a gun, son, now run, get it the gut away. Live to shoot another day.
FM.